Bonsoir Fabienne Saintès.
Bonsoir Charline et les amis. Soyez sages et à très vite. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 7 avril avec le journal de Jérôme Cadet. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel Jérôme commence ce soir par l'Ukraine et ses communications entre soldats russes à Boutcha. Elles ont été captées par les renseignements allemands.
Oui, des militaires qui parlent à la radio des exactions. Une nouvelle preuve selon le journal allemand qui les révèle de la responsabilité de l'armée russe. Nous serons à Berlin dans une minute. L'Assemblée Générale de l'ONU a suspendu il y a quelques minutes la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce ce soir qu'elle sera demain à Kiev pour afficher le soutien indéfectible de l'Europe à la défense de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine, qui sera évidemment à l'agenda du futur résident de l'Elysée, devra-t-il parler à Vladimir Poutine? À quel rythme et avec quel ton? Nous verrons ce qu'en disent les différents candidats. Nous serons aussi avec des électeurs qui déposent leur procuration. Ils ont jusqu'à samedi pour le faire. À la une également ce soir le procès Zepeda à Besançon, le dernier interrogatoire de l'accusé qui continue de clamer son innocence. Et puis de la musique classique contemporaine, une création dans ce journal, c'est rare et c'est français. Au menu avec vous Fabienne dans quelques minutes.
Eh ben, on est très tourné vers le vote de dimanche ce soir à 18h15 dans Un jour dans le monde. Comment nos voisins plus ou moins proches regardent cette France qui va voter? Est-ce qu'ils décrivent une France qui va bien? Est-ce qu'ils décrivent une France en colère? Ont-ils perçu, commenté la France qui hésite que nous sommes? Nous irons en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Israël aussi avec nos correspondants. Et puis à 19h20, dans le téléphone sonne, on va faire quelque chose d'un peu impressionniste ensemble. On va parler de la campagne électorale à la machine à café, la campagne électorale en famille, la présidentielle, même si on ne vote pas, c'est l'élection dont on parle, que l'on partage. Même chose pour nos doutes, c'est aussi le sujet sur lequel on s'engueule entre amis et en famille le plus souvent. Racontez-nous, à moins que cette morne campagne n'ait asséché aussi vos conversations, vous allez nous le dire. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce sont donc des enregistrements incroyables, Jérôme, dont on va parler.
Nous avons entendu les témoignages sur Inter des survivants du massacre de civils ukrainiens à Boutcha. Nous avons vu également de rares images filmées par drone. Et voilà que le journal allemand Der Spiegel affirme qu'il existe des preuves audio des exactions. Selon le quotidien, des communications radio entre soldats russes ont été interceptées par les services de renseignement allemands. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Ces enregistrements feraient référence à certaines des victimes qui ont été retrouvées à Boutcha.
Oui, ces échanges captés et enregistrés par le BND, les services secrets allemands, laissent penser que ces meurtres n'ont pas été des actes fortuits arrivés par hasard ou l'action de soldats isolés qui perdent le contrôle. Au contraire, estime le journal Der Spiegel, ces communications suggèrent bien que les soldats russes discutent de ces atrocités comme faisant partie de leur quotidien. L'un décrit à un autre comment lui et ses collègues viennent d'abattre une personne à vélo. Un cadavre avec un vélo a bien été photographié par la presse du monde entier le long de la route principale à Boutcha. Ces échanges interceptés et transmis hier aux députés allemands donnent aussi des indications sur les auteurs de ces crimes. Et il ressort que des mercenaires du groupe Wagner auraient joué un rôle déterminant en agissant de façon aussi cruelle qu'ils ont pu le faire en Syrie, en répandant la terreur tout simplement pour étouffer la résistance de la population locale. D'autres communications radio seraient entre les mains aussi de ces mêmes services de renseignement allemands et concerneraient cette fois les environs de Mariupol au sud et le même type d'atrocité.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Inter à Berlin, merci à vous. Sur le plan militaire en Ukraine, l'armée russe continue de bombarder les provinces du Donbass à l'est et prépare son offensive. L'Ukraine, elle, poursuit l'évacuation des civils de cette région. Au sud, Mariupol assiégé résiste toujours. En prendre le contrôle prendra du temps. On reconnaît aujourd'hui les séparatistes pro-russes. Selon eux, des milliers de combattants ukrainiens sont encore sur place dans la ville. Les 27 pays de l'Union européenne n'arrivent pas à se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie. La question tourne autour de l'arrêt des importations de charbon. Coup de pression aujourd'hui du Parlement européen qui a voté pour un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz russe. Résolution adoptée à une très large majorité, alors que, je vous disais en titre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera demain à Kiev. Alors faut-il sanctionner davantage la Russie? La question est aussi posée aux 12 candidats à l'élection présidentielle française. Même si l'effet de la guerre sur la campagne semble s'atténuer, le prochain président ou la prochaine présidente devra composer avec Vladimir Poutine. Dans quelle mesure devra-t-il garder un contact régulier ou au contraire les limiter? Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Vous avez étudié les déclarations des candidats. La grande majorité d'entre eux pensent qu'il faut continuer à dialoguer avec le maître du Kremlin.
Oui, 9 échanges téléphoniques depuis le début de la guerre le 24 février entre le président français et Vladimir Poutine. Les crimes de Boutcha changent-ils la donne? Non, j'assume totalement, répond-il. C'est mon devoir et contrairement à d'autres, je n'ai jamais été naïf ou complice dans son viseur, entre autres, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui n'osent reprendre les mots de leur allié européen, le Premier ministre polonais, pour qui on ne négocie pas avec les criminels, on les combat. Iriez-vous négocier avec Hitler, Staline ou Pol Pot, demande-t-il. Attaque scandaleuse, réagit la présidence. Valérie Pécresse prône aussi un maintien du dialogue. Poutine sera, dit-elle, un interlocuteur indispensable pour la paix, mais il ne peut plus devenir un allié de la France. C'est soit la diplomatie, soit la guerre totale, avait lancé Nicolas Sarkozy à sa sortie de l'Élysée fin février. Formule reprise par Jean-Luc Mélenchon jusqu'à hier soir, affirmant désormais qu'on ne peut pas accepter de poursuivre des relations personnelles avec un homme qui a une responsabilité de crime de guerre. Yannick Jadot et Anne Hidalgo jouent la carte de la responsabilité. Pas d'attaque à ce sujet contre Emmanuel Macron, mais un appel à durcir les sanctions.
Maxence Lambrecq du service politique d'Inter. À 3 jours du premier tour de cette élection, les candidats tentent de mobiliser. Yannick Jadot en meeting à Nantes, son dernier avant dimanche. Nous y serons dans le journal de 19h. Valérie Pécresse, elle est aux côtés de Laurent Wauquiez à Lyon. Éric Zemmour au Palais des Sports à Paris. Fabien Roussel sur ses terres à Lille. Philippe Poutou, lui, est à Toulouse. Le candidat devrait une nouvelle fois défendre l'utilité du vote NPA au premier tour. C'est ce qu'il a répété hier soir devant ses partisans à Bordeaux, tout en assurant qu'en cas de second tour, Macron-Mélenchon, il appellerait à voter pour le candidat de la France insoumise. Même si, dit Philippe Poutou, il est très intégré au système. Philippe Poutou qui a aussi appelé les militants de gauche à se remobiliser après la présidentielle pour lutter contre ce qu'il appelle le danger immédiat du fascisme. Zemmour, Le Pen, selon lui, en vrai, c'est pareil. Fin de citation. Et Marine Le Pen, précisément, est à Perpignan ce soir. La candidate du Rassemblement National craint particulièrement l'abstention. À ce sujet, tous ceux qui ne pourront pas se rendre aux urnes peuvent réaliser une procuration. Vous pouvez les déposer jusqu'à la veille du scrutin, donc samedi, notamment dans les commissariats et gendarmeries, dans les Côtes d'Armor. Les gendarmes vont d'ailleurs à la rencontre des électeurs dans leur jande truck. Ils étaient ce matin sur le marché de Lamballe. Joanne Moison y était aussi pour Inter.
Le jande truck, fourgon bleu clair, est garé au milieu du marché. Le lieutenant Sylvain Bettier, commandant de la brigade de Lamballe, a installé une oriflamme gendarmerie juste à côté pour être encore plus visible. C'est donc une mission procuration. Elles affluent en ce moment à la caserne.
Depuis le début de semaine, en moyenne, on est sur une cinquantaine de procurations par jour. Et donc, pour répondre présent, on se rend disponible sur le marché avec le jande truck.
J'ai fait les papiers.
Il y a le code quelque part. Me permettre ?
Allez-y, prête, monsieur.
C'est Betty, elle a rempli sa demande de procuration en ligne et elle vient ici la faire valider par les gendarmes en faisant ses courses sur le marché.
Ça c'est une initiative trop top parce que ça te fout les boules hein, d'aller à la gendarmerie. Mais là c'est ouvert et l'accueil est différent, c'est plus sympathique.
Tenez, pour moi c'est bon, c'est ok.
Super, je donne ça à ma tata, c'est tout, basta.
Non, même pas, il y aura un mec qui va arriver à la mairie et puis elle aura juste à se présenter avec sa pièce d'identité à votre bureau de vote.
D'accord.
Et sa carte électeur.
D'accord, ok, donc elle vote bien quoi.
C'est rapide.
Non mais ça c'est top.
On disait 3 minutes, on est à 2 minutes top chrono.
Vous voulez une galette saucisse, les gars ou quoi? Non.
Non, pas de galette saucisse. Dans le secteur de Lamballe où nous nous trouvons, les gendarmes déposeront les dernières procurations en mairie samedi après-midi.
Reportage Joanne Moison, France Bleu Armorique.
Si vous êtes impatient, vous pouvez déclarer vos revenus 2021.
Les formulaires papier sont envoyés depuis ce matin, donc ne vous étonnez pas si vous ne les avez pas encore reçus. En revanche, la déclaration en ligne est ouverte. L'an dernier, 87% des foyers fiscaux français avaient fait leur déclaration d'impôt en ligne ou de manière automatique. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Parmi les nouveautés de cette déclaration 2022, celle qui touche au barème kilométrique.
Oui, ce barème kilométrique est revalorisé de 10%, mesure pour les ménages obligés de prendre leur voiture pour aller au travail en pleine flambée des prix des carburants. Tous bénéficient de la déduction forfaitaire de 10%, mais dans certains cas, il est plus intéressant de passer aux frais réels, explique Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques.
Je prends le cas d'une personne qui gagne 28 000 euros de revenus fiscaux de référence avec un abattement classique de 10%, c'est 2 800 euros. Si cette personne, elle fait dans ses trajets domicile-travail environ 10 000 km par an, elle pourra déduire en frais réels au titre du transport plus de 4800 euros. Si jamais vous n'avez pas fait le bon choix, l'administration fiscale reprendra votre calcul et fera en sorte qu'on appliquera le meilleur, donc vous risquez pas grand-chose.
Cette année, on peut aussi déduire 30% d'un premier abonnement à la presse, c'est nouveau, jusqu'à 300 euros pour l'installation chez soi d'une borne de recharge de véhicules électriques. Bercy prévoit un forfait, 580 euros pour les salariés en télétravail. En fin de quinquennat, le ministère des Finances se préoccupe aussi du taux de non-recours des bourses scolaires. Chaque contribuable sera redirigé vers le simulateur du ministère de l'Éducation. Combien de familles passent au travers de ces bourses scolaires? Rue de Grenelle, on n'avance aucun chiffre, mais une seule famille, dit-on, qui ne demanderait pas, ce serait déjà trop.
Explication Delphine Simon. Je précise que si vous souhaitez des renseignements, les services des impôts répondent toujours par téléphone. Vous pouvez les appeler. L'an dernier, 44% des foyers fiscaux français ont payé l'impôt sur le revenu. Leur usine se dirige vers une fermeture et ils demandent le soutien de l'État. Une centaine de salariés de la fonderie du Poitou Alu ont manifesté aujourd'hui à Châtellerault dans la Vienne. L'entreprise travaillait pour Renault. Elle doit fermer ses portes fin juin. La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de la gare de Toulouse-Matabiau cet après-midi en cause d'une panne d'alimentation électrique. Retour à la normale selon la SNCF prévue aux alentours de 20h. Devant la cour d'assises du Doubs à Besançon, il se défend pied à pied. Le Chilien Nicolas Zepeda doit répondre de l'assassinat de son ex-petite amie, la Japonaise Narumi Kurosaki. C'était en décembre 2016. Hier, la mère de la victime a dit sa douleur et demandé que la justice soit rendue. Toute autre ambiance aujourd'hui avec le dernier interrogatoire de l'accusé. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Jérôme.
Vous suivez ce procès pour France Inter. La cour d'assises reste suspendue à d'éventuels aveux.
Je n'aurai qu'une seule question à vous poser, monsieur Zepeda, prévient le président de la cour. L'accusé se lève, encravaté, droit comme un i, et pourtant englué depuis 10 jours dans ses explications incompréhensibles, contradictoires, incohérentes, mais tenaces. Une seule question du président donc. Voulez-vous nous dire ce qui s'est passé? Vous faites référence à quoi, tente l'accusé, sans peut-être même se rendre compte de l'effet que produit sa réponse. Alors l'avocate de la famille de Narumi tente le tout pour le tout, d'une voix douce face à Nicolas Zepeda, qui regarde les photos de la jeune femme que la cour projette. Qu'est-ce que vous avez fait de Narumi? Essayez de soulager la douleur de cette famille. Elle sait que vous avez tué Narumi. Elle veut juste savoir où elle est. Je n'ai pas tué Narumi, proteste l'accusé. Quand vous pensez à elle, vous la voyez vivante ou morte? Je la vois heureuse. Et dans mes rêves, elle me voit, mais elle ne m'entend pas. Et Zepeda pleure bruyamment. Vous ne voulez pas lui demander pardon? Où l'avez-vous mise? Insiste Maître Gallet. Je ne l'ai pas tué. Moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé, hurle Zepeda. Moi aussi, je veux savoir. L'avocate lâche l'affaire. Je vous laisse avec votre conscience, monsieur Zepeda.
Compte rendu signé Jean-Philippe Degnaud en direct de Besançon pour Inter.
Et Jérôme, on termine avec cet album qui prouve la vitalité de la musique dite contemporaine.
Quatre musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France ont créé leur quartet à cordes, le Paris Urban Quartet. Ils viennent de sortir leur premier album avec quatre pièces de compositeurs vivants, dont trois en première mondiale. Un disque Stéphane Capron qui montre le dynamisme de l'école française de la composition.
Fabien Cally a créé cette pièce Heavy Metal Machine au festival de Radio France Montpellier-Occitanie en 2019. Il donne une vitalité et une énergie aux cordes qui a tout de suite séduit la violoniste Domiti Gillon.
Fabien, il parle de musique de guitare électrique, c'est du métal, du moteur de la musique et tout ça. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont souvent avant-gardistes. Le propre du compositeur, c'est d'être engagé et d'avoir quelque chose à dire.
Dans un autre registre, Camille Pépin a créé cette pièce Feuille d'eau lors d'une résidence à l'abbaye de Sylvacane. Camille Pépin puise son inspiration dans la nature. Elle fait le grand écart avec la musique de Fabien Cally, une richesse pour l'altiste David Vinceau.
Là, moi, je trouve que c'est quatre pièces qui sont extrêmement intelligibles immédiatement, effectivement, dans des styles très différents. Camille, c'est quelque chose de très imagé, mais c'est une musique qui propose beaucoup de repères. C'est pas une musique dans laquelle on est perdu.
Les musiciens du Paris Urban Quartet ont choisi des œuvres de deux autres compositeurs plus âgés, Marc-André Dalbavy et Guillaume Connaisson, un pont entre les générations pour montrer toute la vitalité de la musique contemporaine française.
premier album du Paris Urban Quartet avec Stéphane Capron.
Et merci beaucoup Jérôme Cadet. À tout à l'heure dans Sous les radars, vous nous parlerez notamment de l'Italie qui veut attirer les télétravailleurs dans des petits villages désertés. Ce soir, à 3 jours du premier tour, nous verrons comment nos voisins décrivent cette France qui va voter, les Allemands, les Anglais, les Italiens et aussi d'autres. Et puis au téléphone sonne, on va essayer de jouer ensemble, je vous fais confiance. À 3 jours du vote, je voudrais qu'on se parle de la campagne électorale à la machine à café, la campagne en famille, bref, entre vous, est-ce qu'on échange, est-ce qu'on s'engueule, est-ce qu'on a zappé le sujet parce que cette campagne décidément est sans sujet fort, sans débat qui surpasse les autres. À quoi ressemblent vos échanges avant ce premier tour? Y a-t-il dans une conversation nationale une petite part de ce que vous entendez, de ce que vous vous dites aussi dans la cuisine ou ailleurs? Dites-le nous au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Élodie Calac, bonsoir. Attention, beaucoup de vent.
Oui, il se renforce encore ce soir et cette nuit sur la Corse. Parfois plus de 150 km à l'heure au Cap Corse. Demain, ça soufflera encore entre 80 et 100 km à l'heure. La dépression Diego va traverser le pays demain avec du vent fort sur la plupart des régions. Il se renforcera en cours de matinée. De la Vendée et des Charentes vers le centre-Val de Loire, on attend 80 à 110 km à l'heure, voire 120 sur les côtes. D'ailleurs, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres sont en vigilance orange.
Et puis de la pluie aussi, Élodie.
Oui, un bon arrosage sur la plupart des régions, surtout du nord-ouest vers la région parisienne et le Grand Est. Au nord de la Seine, un peu de neige pourrait bien blanchir les sols très temporairement. La Savoie reste en vigilance orange avalanche. De fortes chutes de neige vont persister au-dessus de 1800 mètres demain. Et puis les températures, elles amorceront une baisse par le nord. 5 degrés seulement à Lille ou à Rouen demain après-midi, 10 à Paris, 15 à Nantes, 16 à Lyon, 21 à Toulouse et 23 à Nice.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure après 19h.